100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
La dépendance à l'énergie russe, comment s'en libérer ? Tous les pays européens ou presque sont confrontés à ce casse-tête. La Grèce prévoit ainsi de doubler sa production de charbon. Les centrales de lignite très polluantes ne fermeront donc pas l'année prochaine comme initialement prévu. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire la dépendance d'Athènes au gaz russe et de contrer la hausse des prix de l'énergie. Car en un an, les prix ont fait des bonds. Le gaz naturel a augmenté de près de 79%, celui de l'électricité de 71%. Une envolée qui entraîne une inflation de presque 9% du jamais vu en près de 30 ans. Les Grecs, éprouvés déjà par 10 ans de crise financière, ne savent plus comment gérer. Le reportage de Joël Brunner.
Qu'elle suscite la stupéfaction, l'inquiétude ou encore l'agacement, l'inflation de ces derniers mois, et surtout la hausse spectaculaire des prix de l'énergie, électricité en tête, s'invite en Grèce dans de nombreuses conversations du quotidien. Au point d'ailleurs de pousser à deux reprises, fin février et début avril, quelques 10 000 manifestants dans les rues de la capitale athénienne pour protester contre la vie chère. D'autant que la Grèce est encore confrontée aux conséquences de 10 années de crise économique. Les pensions des retraités ont par exemple été réduites de près de 40%. Pour Tianis Terxis, 74 ans, qui touche environ 700 euros par mois, il serait temps de les revaloriser.
Les factures de DEI, le fournisseur d'électricité, ont été multipliées au moins par 2, voire par 3. C'est hors de prix. Et bien sûr, il y a une inflation importante sur les produits de tous les jours, des choses tout à fait essentielles. Que faudrait-il que l'on arrête d'acheter ? La nourriture, le pain, le lait pour les enfants ? C'est comme si on nous mettait les mains directement dans les poches pour nous prendre tout notre argent.
À ses côtés, Yorgos Lolos, de 2 ans son cadet, explique lui qu'à présent, les mensualités de sa pension ont tendance à s'évaporer de plus en plus rapidement.
En ce moment, au bout des 10 premiers jours du mois, j'ai déjà dépensé tout l'argent de ma retraite. Je me retrouve alors obligé de manger du pain. Et même le pain, je n'en ai pas en grande quantité.
Du pain qui, en un an, a lui aussi augmenté de plus de 7%. Et symétriquement, de l'autre côté de la vie professionnelle, l'inflation et la forte hausse des prix de l'énergie rendent là encore les fins de mois plus difficiles. Comme pour Chara, étudiante à Athènes, qui préfère n'indiquer qu'un prénom.
En parallèle de mes études, je travaille dans un magasin de vêtements, parce qu'autrement je ne pourrais pas y arriver. Tout mon budget, je le dépense à présent pour payer l'électricité et des produits de base. Qu'il s'agisse du courant ou de choses comme le pain et le fromage, en fait tout a augmenté. Avec seulement 500 ou 600 euros par mois, on ne peut plus s'en sortir. À la fin du mois, en ce qui me concerne, il ne me reste plus rien.
Pour les automobilistes aussi, l'addition est de plus en plus salée, avec un sans-plomb qui peut parfois avoisiner ces dernières semaines les 2,50 euros. Pour les professionnels du secteur des transports, cette flambée du litre d'essence correspond même concrètement à une baisse de revenus. Kyriakos Psitopoulos, chauffeur de taxi dans la capitale grecque.
Un exemple tout simple. Avant, je mettais 20 euros d'essence par jour dans mon taxi. Maintenant, pour le même nombre de kilomètres, il m'en faut 40. Mes coûts ont été multipliés par 2. Et on constate plus généralement une hausse sur l'ensemble des marchandises, puisque quand l'essence est à la hausse, les prix des autres produits, eux aussi, augmentent mécaniquement. Mais l'un des plus gros problèmes, c'est l'énergie. Lorsque vous ouvrez l'enveloppe de votre facture d'électricité, il faut faire un signe de croix, une prière, parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Les prix peuvent s'envoler jusqu'au ciel.
Sur Terre, dans la rue, Christos se présente d'un simple prénom. Lui qui appartient à un syndicat des métiers du livre, rappelle lui aussi que ces derniers mois, les factures d'électricité ont été multipliées approximativement par 2.
D'abord, nous avons été confrontés à une crise économique qui a duré 10 ans. On nous disait alors que les choses allaient s'améliorer. Mais ensuite, il y a eu la pandémie de Covid. Là encore, on nous disait que c'était temporaire. Voilà maintenant la guerre en Ukraine. Donc, l'embellie promise, nous ne la voyons pas arriver. Je pense que les gens ont atteint leurs limites. Cela fait 10 ans qu'un mémorandum a été signé et qu'il a entraîné l'austérité, la rupture des conventions collectives et la baisse des salaires qui, depuis, sont restés très bas. Il est temps qu'ils augmentent à nouveau et que nous retrouvions une situation normale vis-à-vis du droit du travail.
Depuis le mois de septembre, plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés par le gouvernement grec pour soutenir les entreprises et les ménages frappés par l'envolée des prix de l'énergie. Ce soutien financier, même s'il est souvent jugé insuffisant dans la rue, devrait se poursuivre dans les mois à venir, en parallèle de l'augmentation prévue au 1er mai du salaire minimum.
Le salaire minimum, qui s'élevait jusqu'à présent à 663 euros, va donc être relevé à partir de dimanche à 713 euros. La Pologne et la Bulgarie, dépendantes à 90% du gaz russe, depuis hier, ces deux pays doivent faire sans. Les vannes ont été fermées et il pourrait bientôt en être de même en Serbie. Ce pays des Balkans est dépendant à 89% du gaz russe. Mais dans l'immédiat, c'est son approvisionnement en pétrole qui est menacé. La Croatie voisine, son principal fournisseur, prévoit de couper le robinet si la guerre en Ukraine se prolonge. Les explications de Simon Rico.
L'opérateur public croate a prévenu. Le 15 mai, il arrêtera de livrer du pétrole brut à l'ancienne compagnie pétrolière nationale serbe, dont la majorité du capital est passée depuis 2009 sous le contrôle du géant russe Gazprom. Seules deux possibilités pourraient permettre que l'acheminement du brut continue vers la Serbie après cette date, la fin de la guerre en Ukraine, ou que l'État serbe redevienne l'actionnaire majoritaire de Nice Pétrole. Selon le quotidien serbe Politica, qui a révélé l'histoire, la mesure fait partie du quatrième paquet de sanctions infligées à la Russie par l'Union européenne. Ces sanctions interdisent en effet les transactions avec certaines sociétés étrangères sous tutelle russe, dont le serbe Nice Pétrole fait donc partie. Détenu à 56% par Gazprom, à 30% par l'État serbe et à 14% par de petits actionnaires, l'entreprise va devoir rapidement trouver la parade sous peine de se faire couper les vannes. Or, la raffinerie de Pančevo, à côté de la capitale Belgrade, qui couvre environ 70% des besoins de Serbie en carburant et en produits dérivés du pétrole, indispensable à toute l'industrie pétrochimique, ne peut pas fonctionner sans les quelques 3,2 millions de tonnes de brut acheminées chaque année depuis la Croatie. La modeste production de pétrole serbe atteint en effet à peine 800 000 tonnes annuelles et il est impensable de l'augmenter dans de telles proportions. Le président Aleksandar Vučić s'est bien empressé de promettre qu'une solution serait trouvée avec l'Union européenne, que la Serbie espère rejoindre, sans toutefois donner aucun détail sur les moyens d'y parvenir, sachant qu'il paraît compliqué pour l'État serbe de redevenir si vite l'actionnaire principal de Nice Pétrole. En attendant, les prix à la pompe flambent dans le pays, atteignant des niveaux records proches des 2 euros le litre.
L'Espagne fait partie des rares pays européens avec le Royaume-Uni à ne pas être dépendant de l'énergie russe. Madrid se fournissant principalement en gaz venu d'Algérie et des États-Unis. Mais face à la dépendance du reste de l'Europe et depuis le début de la guerre en Ukraine, la péninsule ibérique tente de relancer un projet très coûteux de gazoduc qui relierait la France à l'Espagne par les Pyrénées pour acheminer du gaz algérien vers toute l'Europe. Les explications d'Élise Gazangel.
Abandonné en 2019 après près de 9 ans de travaux, le projet du gazoduc Midcat était jugé à l'époque trop coûteux et non indispensable sur fond de protestations écologiques portant sur l'impact environnemental dans les zones traversées par l'énorme infrastructure. Mais la guerre en Ukraine a rebattu les cartes et depuis Outre-Pyrénées, on multiplie les invitations à relancer ce projet qui permettrait de relier le reste de l'Europe au réseau ibérique. Ce qui présente plusieurs avantages. Le pays est approvisionné par le gaz algérien, mais possède aussi 6 usines de regazéification de gaz naturel liquéfié, utilisées qu'à la moitié de leur capacité aujourd'hui, et 35% du stockage européen de GNL. Le 11 avril dernier, le président catalan Pere Aragonès, en visite à Paris, a même pris le temps de rencontrer le syndicat des énergies renouvelables et a défendu le Midcat avec un nouvel argument, cette fois plus écologique. Outre le gaz, ce projet pourrait aussi servir pour transporter de l'hydrogène vert. L'Espagne voudrait surtout que l'Europe finance ce gazoduc, un investissement sur le long terme, puisqu'il faudrait attendre au moins 5 ans avant que le Midcat ne soit opérationnel au vu de la durée des travaux de ce gazoduc géant.
Autre option, le biogaz. Ce gaz renouvelable produit par la dégradation des déchets organiques pourrait devenir une alternative au gaz classique. En France, cette filière de méthanisation se développe depuis 10 ans. Elle s'est accélérée ces dernières années. Direction la région des Hauts-de-France. C'est l'une des premières régions productrices de ce gaz renouvelable en France et pourquoi pas en Europe. Le reportage de Lise Verbeck.
Quand on roule sur un kilomètre après la commune picarde de Montdidier, on aperçoit depuis la route un méthaniseur flambant neuf qui a été construit et mis en service il y a quelques mois. Dans les deux énormes cuves fermées de 5700 m3 chacune, de plusieurs mètres de haut, appelées digesteurs, les déchets agricoles fermentent.
Donc là vous avez les deux fermenteurs, fermenteur 1, fermenteur 2, qui sont toujours à une température constante de 40 degrés. Pour faire simple, c'est comme un chauffage au sol. Hein. C'est des grosses cuves en béton avec du chauffage dans le béton pour maintenir à 40 degrés pour que ça commence à faire son effet de fermentation et de gaz.
Hubert de Haspe est devenu au fil du temps un fin connaisseur du processus de méthanisation. Les déchets agricoles introduits dans les deux cuves sont donc chauffés et au bout d'un mois ou deux, le gaz produit par la fermentation est ensuite injecté dans les tuyaux directement reliés au réseau des communes. Hubert de Haspe est agriculteur depuis plus de 20 ans et avec 5 autres collègues installés dans un rayon de 10 km autour du méthaniseur, il s'est lancé dans ce projet en 2018.
À l'époque, on n'était pas dans le contexte actuel, on ne connaissait pas le Covid, on ne connaissait pas la guerre actuelle. Et on était un peu sur une stabilité, toujours moins de revenus sur les exploitations, plus de charges, hein, les baisses des primes PAF, etc. Et on a cherché à se diversifier. Il se pointait le créneau des méthaniseurs et on a dit il faut pas perdre de temps, faut être un peu, on était dedans, ça nous a plu. On a fait beaucoup de visites et au terme des visites, on a dit on se lance.
Il a fallu 3 ans pour monter ce projet, le temps d'avoir toutes les autorisations nécessaires et les cuves ont commencé à produire du gaz l'année dernière. L'unité alimente l'équivalent de 1500 logements en chauffage et en eau chaude à Montdidier et dans les communes environnantes. Chaque jour, ce sont plusieurs tonnes d'effluents agricoles, comme du lisier de vache, des déchets de carottes ou de betteraves, qui sont insérés dans le méthaniseur.
Alors, comme on a 6 exploitations, on est 3 à faire de l'élevage, pour faire simple. Élevage bovin laitier, poule pondeuse plein air et bovin viande. Donc déjà, tous nos effluents des exploitations reviennent à la méta. On n'a plus d'effluents en plein, on n'a pas de mise aux normes à faire ou de stockage d'effluents sur nos exploitations. Tout passe par la méta. Plus les lessives, les intercultures qu'on sème principalement après la moisson et qui sont récoltées là au printemps, type seigle, principalement ça. On a du déchet industriel, enfin ce qu'on peut appeler du déchet industriel, de Saint-Louis sucre, les pulpes de betteraves sucrières. Voilà, c'est les principales ressources pour la méta. Après, on peut avoir quelques coproduits comme des issues de céréales, des coopératives ou autres. Là, actuellement, on a aussi du déchet de carottes, des choses comme ça. Nous avons la trémie d'incorporation. Donc c'est ici que notre ration va être mise. La ration est supervisée par un biologiste par qui on a fait construire le méthaniseur. Tous les jours, on introduit, ça varie entre 50, 60, 65 tonnes, suivant la ration. Là, on baisse un peu en ce moment parce qu'on produit beaucoup de gaz.
L'agriculteur ne souhaite pas communiquer sur l'investissement réalisé, mais ce type d'installation coûte environ 4 à 6 millions d'euros. Ça sera amorti d'ici quelques années, assure l'exploitant. D'autant que le méthaniseur, ajoute-t-il, permet également de réduire presque de moitié l'achat d'engrais, car les agriculteurs utilisent le digesta, le résidu du processus de méthanisation, pour l'épandre sur leurs champs. Ce type d'installation se multiplie dans la région, au point que certains habitants commencent à s'inquiéter, voire à s'opposer à la construction de ces nouveaux méthaniseurs.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Claire.
Comme dans une commune juste à côté d'Amiens, à Dreuil-les-Amiens, une association de citoyens s'est constituée contre un projet de méthanisation à 500 mètres des habitations. Christian Claire est le vice-président de l'association.
Il y a la question des odeurs qui, effectivement, pose des questions. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément le pire. Il y a la question des transports. On annonce, il est annoncé dans le projet, en période haute, jusqu'à 40 camions par jour. Donc c'est des gros camions avec des roues, il y a des problèmes de boue. On n'a pas d'informations là-dessus. On n'a pas les derniers parcours arrêtés, puisque les porteurs de projet nous ont fait savoir qu'en fait, les camions ne prendraient pas la route. Mais s'ils ne prennent pas la route, ils vont prendre les chemins. Quel chemin? Il y a des gens qui se promènent. On n'a pas de précision. Et puis sa localisation est quand même problématique. Et à proximité, vraiment très proche des habitations. Lorsqu'on a évoqué le fait qu'elle aurait pu être implantée un peu plus loin, parce qu'il y a quand même de la place, on nous a opposé une raison économique liée à la distance qu'il y a entre le méthaniseur et son raccordement au réseau de gaz.
L'association a engagé une bataille judiciaire et a fait un recours au tribunal administratif d'Amiens.
Nous ne luttons pas contre les méthaniseurs. Nous demandons qu'il y ait une concertation, une information des populations, de façon à ce que les zones périurbaines d'Amiens, ou d'une façon générale dans les grandes villes, ne se transforment pas en zones agrico-industrielles pour des motifs écologiques, environnementaux, au détriment de la qualité de vie des gens qui y habitent et décidés par des gens qui, bien souvent, n'y habitent pas. Et donc, nous, on demande qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que pour les éoliennes, c'est-à-dire qu'on arrive à une situation de saturation pour se dire il faut faire des plans.
Les préfectures, conscientes de ces problèmes, ont établi des chartes avec les agriculteurs pour mieux encadrer les projets de méthanisation et améliorer la communication avec les habitants. Pour le projet de Dreuil-les-Amiens, les constructeurs espéraient une mise en service à la fin de l'année, mais le recours au tribunal le met en suspens le temps de la procédure.
Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole.
Et pour réduire sa dépendance, on peut aussi consommer moins d'énergie. Mais si en Europe, un peu plus de 9 jeunes sur 10 s'inquiètent du changement climatique, cette conscience n'est pas forcément synonyme de changement de mode de vie. Alice Rougeat, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené l'enquête et les jeunes ne sont pas vraiment prêts à être sobres énergétiquement.
Oui, en ce qui concerne les petits gestes économes du quotidien, la jeune génération n'excelle pas. Persuadée que le dérèglement climatique n'est pas de son fait, mais plutôt celui des gros industriels. Selon l'étude Climate of Change menée par l'Ipsos auprès d'un panel de jeunes Européens, près d'un tiers des sondés déclarent que l'action individuelle n'a peu ou prou aucun effet.
Et c'est pourtant pas du tout ce que déclare le GIEC, les experts climat de l'ONU, dans son dernier rapport publié au début du mois d'avril.
Oui, si on les écoute, changer nos modes de vie et de consommation pourrait permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050.
Mais c'est justement sur cette façon de consommer que la jeune génération a du mal à enclencher des changements.
Tout à fait. Les 18-24 ans ont du mal à changer leur mode de vie, encore très consumériste. Les adolescents sont par exemple les premiers à se ruer dans les magasins pour les soldes, à vouloir le dernier iPhone ou la console la plus récente. Tout ça, ça représente des industries très polluantes. Et puis, il y a vraiment une fracture générationnelle. Si 40% de la population adulte européenne est d'accord avec l'idée de réduire sa consommation de viande, par exemple, seuls 20% des jeunes de la génération Z, qui sont nés après 97, en sont convaincus. C'est ce qui fait la différence entre manger une salade de quinoa ou choisir un kebab pour la pause déj.
Les jeunes sont donc moins dans la sobriété que leurs aînés.
Complètement. Il semblerait que plus on vieillit, plus on fait attention à ce qu'on consomme. Les 18-24 ans trient moins leurs déchets, n'achètent pas nécessairement des produits de saison ou bien ne pensent pas forcément à débrancher leurs appareils électroniques, ce qui permet de réduire sa consommation. Là où ils sont bons, en revanche, c'est dans le fait d'acheter des produits d'occasion. Mais attention, ne vous méprenez pas, c'est surtout pour faire des économies.
Est-ce que c'est le cas dans toute l'Europe ?
C'est une tendance assez générale, oui, mais il y a quand même des exceptions. Attention, je sors la carte magique Suède. Dans ce pays scandinave, décidément très bon élève, les jeunes ont des pratiques plus durables que leurs aînés. Ils font par exemple très attention aux labels et aux conditions de fabrication des produits. Il y a aussi des disparités géographiques. À Malte, par exemple, petite île méditerranéenne déjà très touchée par la sécheresse estivale, un jeune sur deux estime qu'il doit agir au quotidien. C'est un peu plus du double qu'en République tchèque.
Mais alors, pour combattre le changement climatique, comment comptent-ils s'y prendre, ces jeunes ?
La cible pour la jeune génération, ce sont les entreprises. Cette génération demande à ce que les entreprises vendent de meilleurs produits ou soient pénalisées par les États et l'Europe si elles utilisent des énergies fossiles, par exemple. C'est une des mesures concrètes proposées par la délégation des jeunes dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe.
Merci Alice Rougeat. À jeudi prochain. Donatien Cahut était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.